Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Territoria, c'est votre web radio au service des territoires. Je suis très contente de vous retrouver, surtout pour ce magazine qui nous apporte beaucoup de renseignements, le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Alors, aujourd'hui au programme, eh bien, vous le savez tous, à partir du 1er janvier 2020, très important, toutes les communes de plus de 3500 habitants seront tenues de recevoir et d'instruire les demandes de permis de construire par voie dématérialisée. Vous êtes en droit, évidemment, de vous poser des questions. Quels sont les fondements juridiques de la dématérialisation, du droit des sols, l'objectif du programme, le calendrier ou encore les principaux chantiers et travaux à venir, et puis quels seront finalement les gains des collectivités et de nous-mêmes citoyens. C'est une transition, personne ne nous l'a caché, nécessaire, gigantesque, qui est en marche et qui demande des explications claires qui vous seront données aujourd'hui dans quelques instants par notre invité. Le but également de notre MAG, vous le savez, c'est de vous donner la parole, la vraie, celle qui est libre. Vous pourrez donc dans la deuxième partie de cette émission poser vos questions à tous nos experts. Pilier incontournable du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, Michèle Félep est avec nous. Bonjour ma chère Michèle.
Bonjour Billy, bonjour à tous.
Je rappelle, Michèle, que vous êtes chargée de mission animation territoriale des HUP et DGALN. Et nous avons un invité ce matin, toutes les deux. On est ravis de le recevoir, c'est Jean-Baptiste Lannes. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Billy, bonjour Michèle.
Merci d'être avec nous comme invité principal, puisque vous êtes le directeur du programme DEMAT.ADS. Attention, c'est parti.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors cette thématique, elle est importante puisque, je le rappelais en introduction, au 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants seront tenues de recevoir et d'instruire les demandes de permis de construire par voie dématérialisée. Jean-Baptiste, c'est avec vous qu'on va creuser, j'ai envie de dire, le sujet. Mais la toute première question, c'est quoi ce programme de dématérialisation qui va prendre quand même 2 ans à être installé? Racontez-nous.
Alors, merci Billy de me donner la parole et puis de me donner cette tribune. On aura certainement d'autres émissions sur le sujet parce que, comme vous l'avez annoncé, c'est un sujet quand même relativement complexe, où il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de personnes qui sont concernées. Donc, on va passer cette émission à présenter, j'allais dire, les fondamentaux, les bases, pour que ça soit tout à fait compréhensible. Et puis, comme votre émission, elle est podcastable, ça permettra à des personnes qui prendraient les prochains épisodes en cours de route de se faire un résumé. Donc, vraiment, je vais essayer d'être le plus didactique, quitte à être je l'espère pas trop, mais un peu professoral ou en tout cas à revenir sur des choses que les auditeurs, pour la plupart, maîtrisent beaucoup mieux que moi. Néanmoins, c'est important qu'on puisse faire ses bases. Alors déjà, je vais commencer par une définition. En fait, qu'est-ce que l'ADS? Parce qu'on travaille beaucoup sous forme d'acronyme. On est à la croisée de l'administration et des systèmes d'information. Donc, c'est une double contrainte pour faire des acronymes, l'administration et les systèmes d'information. Donc, qu'est-ce que l'ADS? L'ADS, c'est l'application du droit des sols et on ajoute et de la fiscalité associée puisque avec l'acte de construire, vous avez une fiscalité qui est la taxe d'aménagement. Et l'application du droit des sols, ça consiste à s'assurer de la bonne application des règles d'urbanisme quand vous faites une demande de construction. Ça dépend bien évidemment du code de l'urbanisme, du code du patrimoine aussi, on pourra l'aborder, et puis évidemment du code de la construction et de l'habitation. Donc on voit bien qu'on a énormément de codes et énormément de normes qui sont concernées. Ça concerne quel type de formalité? Vous avez d'abord les permis de construire, tout le monde les connaît, le permis de construire c'est vraiment très très connu, mais vous avez aussi les demandes préalables pour les travaux de plus petite importance, les permis d'aménager pour les lotissements et dans certains cas, des permis de démolir. On y associe aussi, c'est un abus de langage, mais on y associe les certificats d'urbanisme d'information ou opérationnel, qui sont des demandes d'information qui sont faites auprès des collectivités pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent sur l'objet. Ce ne sont pas des demandes d'autorisation d'urbanisme, mais on les associe à cette démarche. Alors, donc voilà le cadre, voilà ce qu'on va dématérialiser. Mmh. Et pourquoi on va le dématérialiser? Bon, le premier enjeu, c'est que il y a eu la loi Elan, et que la loi Elan, dans son article 423-3, L423-3, j'ai des antisèches parce que je ne suis pas un juriste, alors j'essaye de dire les mots les plus précis possibles. Mais,
Vous avez raison.
Donc, j'ai quelques petites antisèches sur ce genre de sujet qui sont des sujets précis. Donc, dans son article L423-3, la loi demande aux communes dont le nombre d'habitants est, comme vous l'avez précisé, supérieur à 3500, de disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. Pour celles déposées, ces demandes d'autorisation d'urbanisme, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2022, si c'était le 1er janvier 2020, je serais très en retard. Voilà.
Vous ne l'êtes pas.
Bon, non, pour l'instant, ça va. Ça, c'est le premier sujet, mais avant, il y a eu d'autres textes qui ont été produits, et en particulier le CRPA, le Code des relations du public et de l'administration, dans son article L112-8, qui instaure la saisine par voie électronique. Alors, la saisine par voie électronique, c'est la possibilité qu'on a tous maintenant de saisir, de faire une demande à une administration, quelle qu'elle soit, un ministère, mais aussi une collectivité territoriale, une commune, un département, peu importe, de faire une demande par voie dématérialisée. Donc, il y avait eu, comme, et on le verra très dans les minutes qui viennent, comme on avait une grosse, ce sont de grosses procédures, les demandes d'autorisation d'urbanisme, il y avait eu un délai qui avait été donné pour la saisine par voie électronique, au départ au 8 novembre 2018, et qui a été reporté au 1er janvier 2022. Donc ça, globalement, oui.
Pardon, est-ce que c'est ce que vous appelez la SVE?
Tout à fait, c'est la SVE, saisine par voie électronique. Donc maintenant, les jalons sont alignés entre la SVE, qui s'applique à toutes les communes, ça c'est important de le dire, et la loi Elan dans son article concernant la dématérialisation de l'instruction pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc voilà ces éléments de définition. Donc si on le fait, j'allais dire, c'est en gros pour respecter la loi, si je devais le dire de manière un peu brutal. Ça correspond à une stratégie du gouvernement. Il y a un objectif stratégique de l'État qui est de dématérialiser 100% des formalités à l'horizon 2022. Le nom, c'est Programme Action Publique 2022, l'objectif étant à la fin d'améliorer le service public et de le rendre plus fluide.
Donc ça va nous concerner aussi, les usagers.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que pour pouvoir, mesurer les bénéfices attendus, il faut prendre un tout petit peu de temps, et je vais prendre un tout petit peu de temps parce que le temps file, vais prendre un tout petit peu de temps pour rappeler comment se fait cette procédure. Vous êtes une personne, vous voulez avoir un permis, vous voulez de construire votre maison, donc vous êtes ce qu'on appelle un pétitionnaire, c'est pas très, très beau, mais vous êtes un usager du service public. Et avec votre dossier, vous allez le déposer dans un guichet unique, ce qu'on appelle le guichet unique. Alors, il est pas tant unique que ça, puisqu'il y en a 35 000, toutes les communes sont des guichets uniques. Donc, 35 000 guichets uniques, vous allez déposer votre dossier sur le lieu de la construction, à la commune du lieu de la construction. Là, plusieurs cas de figure sont possibles, mais généralement, le dossier est envoyé à un centre instructeur qui va instruire la conformité de ce dossier aux documents d'urbanisme. Cette instruction, elle peut être faite par des instructeurs communaux, elle peut être confiée à une communauté de communes, à des communautés, donc à des, on va dire, des centres instructeurs mutualisés entre plusieurs communes. Et puis aussi, elle peut être confiée dans certains cas, je ne vais pas m'étendre, mais elle peut être confiée aux directions départementales des territoires pour les permis État ou quand la commune n'a pas de document d'urbanisme, dans un cas très
particulier. Pour qu'on comprenne bien, Jean-Baptiste, on dématérialise. C'est pour forcément une amélioration, on est
oui,
d'accord.
Oui, tout à fait, tout à fait. Cette amélioration…
Est-ce que la crise a eu une incidence? Non, c'était prévu bien avant.
Non, la crise n'a pas eu d'incidence, c'était prévu d'accord. avant. La crise sanitaire qu'on vient de vivre a montré que plus on avait dématérialisé, plus on avait, s'était préparé, plus c'était facile de maintenir cette activité. Évidemment que le remède à la crise, c'est des problématiques sanitaires, c'est un vaccin, ce n'est pas le programme DMAT ADS. Bien sûr. Par contre, la dématérialisation facilite les échanges. Bon. Et donc, pour juste finir l'instruction, donc l'instructeur, la complexité, et ça c'est important que tous les auditeurs l'aient en tête, c'est que l'instructeur, il va faire des tas de demandes de consultation. Et c'est ça la complexité, c'est qu'il ne fait pas seul l'instruction in fine. Ce n'est pas un processus, j'allais dire, très linéaire et très séquentiel où chacun a sa tâche, les unes à la suite des autres. Il va faire des consultations et ces consultations sont importantes parce que ça peut être les services du ministère de la Culture, les directions régionales de l'action culturelle, les unités départementales du patrimoine, de l'architecture et du patrimoine. Ça peut être des gestionnaires de réseau, Enedis, Orange. Ça peut être aussi les services incendie, les services départementaux incendie et sécurité, les SDIS, et qui vont rendre des avis. Une fois qu'il aura regroupé tous les avis, il proposera une décision à l'élu. La plupart du temps, c'est l'élu. Et là, l'élu, il signera en toute connaissance de cause, soit l'acceptation du permis de construire, soit le refus du permis de construire. Donc, mais en fait, la complexité, elle est là. C'est que vous pouvez avoir de 0 à 40 consultations qui sont faites par le centre instructeur. Et donc, c'est pour ça que ce processus n'a pas été dématérialisé de longue date. C'est que vous avez à un moment une véritable complexité qui est faite. Et si on le dématérialise, c'est que pour le pétitionnaire, clairement, tout à chacun, hein, et cette procédure elle est considérée comme longue, assez opaque, et puis elle est source de conflit. Alors il y a une conflictualité qu'on ne réglera pas avec la dématérialisation, qui est la conflictualité liée au voisinage. Si vous avez décidé de construire une maison qui fait de l'ombre à votre voisin, ça c'est pas parce que vous avez dématérialisé la transmission que ça va changer quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que comme il y a des problématiques de délai, comme il y a des problématiques de… l'instruction doit être faite dans des délais qui sont très contraints, elle est soumise à énormément d'obligations, ça peut être source de conflits, de tensions avec les services instructeurs et puis d'incompréhension. Donc pour l'usager, les premières simplifications qu'on a, c'est que vous pouvez faire votre demande depuis chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au guichet communal. D'autre part, vous pouvez, si un jour vous êtes confronté à déposer une demande, vous verrez, c'est un CERFA, donc on a tous l'habitude des CERFA. Celui-là, il est particulièrement, excusez-moi le terme, meumeux. Hein, c'est un gros CERFA. Avec une notice qui fait plus de 40 pages. Et en plus, il ne faut pas se tromper de CERFA, parce que vous avez plusieurs CERFA. Donc pour les pétitionnaires, si vous n'êtes pas un sachant, c'est difficile. Et puis, il faut saisir tout un tas de données. Bon, donc là, tout ce que mettent en place les collectivités, j'y reviendrai, ou ce que nous, on met en place, ça vise à aider le pétitionnaire pour le remplir au mieux, évidemment, pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Le taux de non-qualité des demandes est estimé entre 40 et 50 %, que ce soit au niveau… C'est énorme. Et quand je dis non-qualité, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que pour l'instructeur, il n'a pas les éléments qu'il lui faut pour instruire. Et donc, il y a des allers-retours, ça prend du temps, c'est compliqué. Et tout se fait par papier, donc ça prend un temps infini. Et puis, quand vous faites des consultations, si vous faites une pièce modificative, il faut que tout le monde soit informé en même temps. Donc, c'est vraiment très compliqué pour le centre instructeur et pour le pétitionnaire. Alors, on espère, alors pour l'administration, pour enchaîner sur les gains de l'administration.
Service l'usager, on a vu. On va parler de l'administration. Et puis, un petit mot sur les professionnels. Et puis,
Sur les professionnels, c'est exactement comme pour les usagers, sauf que c'est x100 parce que c'est leur métier. Voilà. Donc, globalement, un architecte, s'il peut s'appuyer sur une transmission dématérialisée, il n'a pas obligé d'imprimer tout un tas de plans, tout un tas de choses, ça ne lui coûte pas cher. S'il a besoin de faire des allers-retours, de communiquer avec un centre instructeur pour une pécadier, une boutique, etc., ça sera beaucoup plus simple, etc. On voit bien l'intérêt pour les professionnels. Et pour les collectivités, ne pas avoir à ressaisir toutes les informations qui sont dans le CERFA, déjà, ça c'est pas mal. Et puis pour les services consultés, la même chose, c'est que tout le monde ressaisit le nom, le nombre de mètres carrés, l'identification. Donc, si on peut récupérer les informations et se les transmettre, ça sera beaucoup plus simple. La non-qualité aussi, diminuer la non-qualité. Pas y remédier complètement. On n'arrivera pas à avoir, il n'y a pas de zéro défaut dans ce genre de choses, mais en tout cas, la faire baisser drastiquement. Et puis aussi, pour les opérateurs, ne plus avoir à gérer tout ce qui est les copies, les problématiques d'envoi, de courrier, etc., qui sont longues et qui sont à faible valeur ajoutée. Donc, veuillez m'excuser.
Ça devient, grâce à vous, de plus en plus clair, mais il faut qu'on avance, oui. Sinon on va rester
en demeure.
C'est pratiquement, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'embarque le programme DEMAT ATS ?
Alors,
les solutions informatiques uniquement, j'allais dire.
Ouais. Alors, deux chantiers. Un, c'est sûr, c'est les systèmes d'information, c'est clair, il en faut des services numériques, j'y reviendrai, bien évidemment, et puis aussi l'accompagnement de tous les acteurs, et en particulier de tous les acteurs qui vont agir, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les services consultés, et puis dans un deuxième temps, ça viendra plus tard, toute l'information et les acteurs pour maximiser le nombre de dossiers qui sont remis de manière dématérialisée, nativement de manière dématérialisée. Donc, on s'adressera aux professionnels puis au public. Donc, sur la mise en place…
Voilà, démarrons avec la place des outils.
OK. Donc, la place des outils, donc l'État va construire une série d'outils et je vais peut-être m'apesantir uniquement sur le principal, qui est l'outil Plateau, qui est une plateforme qui permet que les services instructeurs n'aient pas à se connecter à tous les services consultés et que tous les services consultés n'aient pas à se connecter à tous les services instructeurs. Tout le monde se connecte sur la même plateforme, une seule connexion, et c'est Plateau, et c'est l'État qui le fait pour l'ensemble de la communauté. C'est un vrai bien commun, si vous voulez. Et donc, quand la collectivité, le guichet unique, reçoit un dossier, eh ben, ce dossier est déposé dans Plateau, ce qui fait que tout le monde le voit, tous ceux qui ont à le voir, le voient. Et quand le centre instructeur a besoin de demander un avis, par exemple l'avis d'un architecte des bâtiments de France, il fait une demande d'avis qui est envoyée à Plateau. Et de Plateau, elle va au système d'information de l'architecte des bâtiments de France. Ce qui fait que ça va gagner un temps fou dans la transmission des éléments. Tout le monde va partager le même état du dossier. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si, par exemple, on rajoute une pièce, tout le monde la verra en même temps. On a des systèmes d'alerte pour que les systèmes d'information soient prévenus. Donc, Plateau n'est pas un outil métier. Très clairement, ce n'est pas un outil métier. C'est un outil qui fait le job de la poste, en gros, qui fait le job de la poste. Quand vous envoyez un document par la poste, vous avez une adresse et vous ne vous préoccupez pas, c'est la poste qui gère. Nous, pour le dématérialiser, on fait un peu ce même job, sachant qu'en plus, on historise toutes les versions et tous les échanges, on les date de manière certaine pour que si jamais il y a du contentieux ou s'il y a des questions sur les délais, on puisse partager ces mêmes dates devant un tribunal, ce qui arrive sur le droit de l'urbanisme, sur l'application du droit des sols, ce qui arrive relativement régulièrement. Donc voilà, ça c'est l'outil principal.
Voilà, on va parler de l'embarquement et de l'accompagnement du changement parce que il y a certains chantiers, Jean-Baptiste, qui sont beaucoup plus complexes.
Oui, alors tout à fait. Ça, je vous ai parlé du système d'information, ça peut apparaître complexe. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres émissions parce que c'est vraiment une gageure que tous ces systèmes communiquent entre eux, mais on y travaille et on a du répondant parmi tous nos interlocuteurs. Mais il faut arriver à accompagner l'ensemble des acteurs. Et en premier lieu, dans l'ensemble des acteurs, c'est les collectivités territoriales, que ce soit les guichets, donc les agents des communes, ou alors les centres instructeurs, les 3000 centres instructeurs, un peu moins de 3000 évidemment, les 3000 centres instructeurs, et on bâtit des outils avec énormément d'acteurs, et on bâtit des outils d'accompagnement en termes de formation, en termes de communication, en termes de documents support pour leur permettre de communiquer vis-à-vis de leurs pétitionnaires. Ça, c'est les outils qu'on est en train de construire. les centres instructeurs, mais aussi les services consultés. On accompagne les services consultés, alors pas nous directement, hein, la DGALN, parce qu'il y a des administrations qui sont à la tête de ces réseaux, ils ont des responsabilités propres, mais on leur donne les outils et on partage les outils entre tous ces réseaux tout pour pouvoir motiver et accompagner. Et le premier sujet d'accompagnement du changement, c'est de l'information. Et c'est par ces émissions comme celle de Radio Territoria et le MAC de l'Urba qu'on arrive à faire passer de manière très 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 directe et la plus simple possible toute cette information sur ce programme.
Alors, on l'a bien compris, vous faites pas ça tout seul. Quand je dis vous faites pas ça tout seul, je parle pas de vous, hein. Je parle de la DGALN. Est-ce que vous avez des partenaires?
Alors, on a énormément de partenaires. En particulier, je tiens à préciser parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, que j'ai pas développé au début, mais le ministre et l'association des maires de France et l'assemblée des collectivités de France, donc l'AMF et la DCF, ont signé une charte en avril 2019 qui comprend un certain nombre d'actions, donc la charte du réseau urbanisme et numérique, et qui comprend un certain nombre d'actions qui visent à promouvoir et à coordonner les actions du numérique pour l'urbanisme. Une de ces actions, c'est la dématérialisation de l'application du droit des sols. Donc, nos premiers partenaires, je veux dire, nos partenaires gold, si je devais les baptiser comme ça, très, très, très jolis, mais c'est tout à fait exact, c'est l'AMF et la DCF avec qui on travaille et avec qui nous portons ce programme.
Après, alors, évidemment… Il nous reste, 2 minutes 30 avant de passer aux questions. Est-ce que vous voulez nous citer au moins quand même il y a les deux principaux partenaires. Est-ce qu'on cite un petit peu les autres aussi?
Oui, c'est très, très, très important. Dans les partenaires, on a évidemment dans les autres partenaires, les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou que ce soit le ministère de la Culture, pour les réseaux qu'il chapeaute, ministère de l'Intérieur, les préfectures, ministère de la Culture, les DRAC et les UDAP. Et puis, on a aussi au sein du MCTRCT, du ministère de la Cohésion des Territoires, on a la DGCL, parce qu'elle est très active, puis elle est responsable du contrôle de l'égalité au sein des préfectures. Et je vais rajouter un autre partenaire, au sein de notre ministère, on a notre service du numérique. Et je profite pour rendre hommage à tous les informaticiens qui travaillent auprès des administrations et qui font un boulot pas croyable pour essayer de répondre de manière la plus réactive possible à toutes les évolutions. On l'a vu sur la crise. Donc, les informaticiens qui trouvent des solutions, je voudrais leur rendre hommage. Et on bosse avec tous nos services informatiques et les collectivités bossent aussi avec leurs éditeurs de solutions. Deux autres partenaires que je voudrais citer, et après on passera à la deuxième partie de l'émission, je suppose, c'est le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, avec qui on travaille pour réfléchir à l'évolution du métier d'instructeur, ça c'est important, et puis on travaille aussi avec l'UGAP, donc qui est un acheteur qui est l'union des acheteurs pour le public et qui propose des tas de services et de prestations pour accompagner les collectivités territoriales dans ce programme DEMAT ADS.
Voilà. Alors pour cette première explication, mon cher Jean-Baptiste, je voudrais premièrement vous remercier parce que c'est assez clair. Vous n'avez oublié personne, que ce soit les collectivités, les usagers, car tout le monde va être concerné. Mais comme je vous sens enthousiaste parce que c'est un très très gros projet qui va changer un peu une certaine phase de notre pays, on a déjà prévu une deuxième émission. C'est pile dans un mois, vous serez au rendez-vous.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que je suis enthousiaste parce que je pense qu'on sent une vraie envie d'y aller de la part des collectivités, de la part des services consultés. Une crainte, parce que c'est, comme vous l'avez évoqué, et j'en suis particulièrement convaincu, ça va être difficile à faire, mais une crainte, mais une envie. Donc, une certaine appréhension, mais une réelle envie. Et donc, je serai là le 16 juillet. On essaiera de de vous présenter le calendrier, la méthodologie qu'on a mis en place. Et puis, on évoquera rapidement une première étude d'impact qu'on a fait sur le métier des instructeurs pour voir les points qui sont délicats, ce que ça va changer, etc. Et pour le métier d'instructeur et des services consultés. Et puis, on essaiera de lister des actions très, très pratiques pour que, voilà, juste avant les vacances, on puisse commencer à se préparer.
Voilà, rendez-vous donc pile dans un mois. Ce sera juste après la fête nationale, ça tombera bien, après le 14 juillet. Le 16, on sera ensemble. Merci beaucoup, on va vous retrouver dans un instant en compagnie de Michel, puisque maintenant nous allons répondre aux questions de tous ceux qui nous écoutent, et je sais qu'elles sont nombreuses.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Alors, ma chère Michèle Phelep, vous êtes notre interface entre tous les auditeurs, et c'est vous qui récoltez les questions. Alors, vous avez encore une petite vingtaine de minutes pour poser toutes vos questions. Si vous avez des problèmes même particuliers, je ne dis pas que Jean-Baptiste est Dieu tout-puissant, mais il fera son maximum pour répondre à vos questions. Alors, Michèle, on démarre avec quelles questions?
Alors, on peut démarrer avec une question d'un auditeur de Bourg-lès-Valence qui demande si ça va devenir obligatoire de déposer son dossier sous un format dématérialisé. C'est une question qui est importante à la fois pour les usagers et pour les collectivités qui vont investir pour mettre en place cette dématérialisation.
Alors,
Jean-Baptiste,
c'est une excellente question et on est au croisement de différentes problématiques. Évidemment, on voit bien que ça demande des investissements au niveau de l'État, au niveau des services consultés, au niveau des services instructeurs. Tout le monde va investir pour avoir des systèmes qui communiquent les uns aux autres. D'autre part, on sait très bien que ça va être compliqué si on a un flux de dossiers papier à gérer, puis de l'autre côté, si on a un flux de dossiers dématérialisés. On va s'en mêler les pinceaux, puis dans l'évolution du dossier, la vie du dossier, tout ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, une voie, ça serait d'obliger finalement à dématérialiser les demandes d'autorisation d'urbanisme à la source et d'obliger le pétitionnaire. Mais là, clairement, il ne faut pas y compter. En tout cas, ce n'est pas dans la loi Elan. La seule obligation qui est faite, c'est celle aux communes de plus de 3500 habitants. Et puis, en même temps qu'on dématérialise, la question de l'inclusivité, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, la question d'emmener tout le monde, qu'on n'ait pas des politiques qui marginalisent une partie de la population, que ce soit pour des problématiques de classe, de catégorie sociale, que ce soit pour des problématiques de langue ou que ce soit pour des problématiques d'âge, peu importe. Mais il faut des politiques où on donne le maximum de possibilités. Donc, je pense qu'on ne va pas obliger du jour au lendemain les pétitionnaires. Ça ne fait pas partie de la politique du gouvernement d'obliger tout le monde à déposer de manière dématérialisée du jour au lendemain. Néanmoins…
Oui, pardon, allez-y.
Je finis juste mon néanmoins. Néanmoins, quand on regarde les impôts…
C'est ce que j'allais vous dire.
Exactement. Si on se met en perspective des impôts, ben, au début, ben, moi, je me souviens, ma première déclaration, on m'avait donné de l'argent pour la faire de manière dématérialisée. Je crois que c'était aux alentours de 10-15 euros. Et puis, du temps. Et puis, au fur et à mesure, on avait enlevé l'argent, puis on a enlevé le temps. Puis, à un moment, on a obligé. Mais on a pris le temps de le faire. Alors, ça montre bien que sur ce genre de procédure, on s'oriente vers une plus grande place de la dématérialisation. Mais je ne pense pas qu'on la fasse à marche forcée. Je pense qu'on la fera étape par étape, marche par marche, mais c'est une vraie perspective. Pas d'obligation, mais une incitation, mais une orientation pour le faire, un encouragement pour le faire.
Jean-Baptiste, pour rester sur cette question très précise, parce que c'est le parallèle que je voulais faire avec les impôts, ça ne s'est pas fait en une fois. Est-ce que les territoires, les communes, ces communes auront un rôle éducatif pour leurs citoyens, leurs concitoyens? Je pense à tous ceux qui arrivent à une certaine génération où ça va devenir compliqué de faire ces choses-là dématérialisées. Est-ce qu'il y aura un engagement des communes?
Alors, pour les exemples, je ne peux pas parler au nom de toutes les communes. Je n'ai pas la constitution pour moi. Je ne peux pas parler au nom des communes, étant un représentant de l'État. Néanmoins, les discussions qu'on a, c'est qu'évidemment, les collectivités vont être, les chevilles ouvrières de de la comment dire, le déploiement de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et je n'ai pas évoqué, mais tout le temps qu'on pourra gagner à l'instruction, si on peut le mettre avant l'instruction, avant le dépôt, dans l'accompagnement des différents pétitionnaires, il y a beaucoup de communes qui disent « Venez nous voir avant de déposer votre permis de construire qui fait courir des droits, des délais, des instructions, etc. Venez nous voir, on regarde votre dossier avant. » Donc, c'est à ce moment-là, avec le temps qu'elles pourront gagner sur les traitements un peu à faible valeur ajoutée qu'elles avaient l'habitude de faire avec les dossiers papier, à ce moment-là, le concentrer sur l'accueil du public et là, aider aider les pétitionnaires à dématérialiser leurs demandes. Elles ne pourront pas les obliger, hein, clairement. Clairement, elles ne pourront pas les obliger. Ça, c'est prévu. Le CRPA, ben, vous avez toujours la possibilité, à moins qu'il y ait une loi qui dise l'inverse. Pour l'instant, la loi Elan ne dit pas l'inverse. Mais évidemment, il y aura beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire auprès des pétitionnaires. Il y a un public particulier. Voilà. Il y a un public particulier qu'il faut cibler. Et je sais qu'il y a déjà des communes qui l'ont fait. Elles ont, rencontré toutes les organisations représentatives des aménageurs ou des architectes en leur disant qu'elles se lançaient dans la dématérialisation. Et ce faisant, elles ont encouragé avec beaucoup de vigueur ces professionnels à déposer par voie dématérialisée. Et là, la dialectique est différente parce que autant un pétitionnaire, c'est un individu, c'est un citoyen, et on peut pas le contraindre. Autant une entreprise, on peut considérer une entreprise ou un professionnel de la construction, on peut avoir plus d'exigences, même si encore une fois, je le répète, la loi n'impose que des obligations aux collectivités et à aucun pétitionnaire, c'est-à-dire les usagers ou les professionnels.
Bon, très bonne première question de la part de nos auditeurs, parce que je pense qu'ils sont nombreux à se l'être posé, cette question. Ma chère Michèle, on poursuit avec vous.
Et donc, on poursuit avec l'obligation qui est donnée aux communes de respecter la saisine par voie électronique, avec une question sur est-ce que cette obligation concerne les communes de moins de 3500 habitants sans dématérialisation totale de l'instruction, je vous la lis, ou est-ce que la saisine par voie électronique ne s'applique qu'aux communes de plus de 3500 habitants?
Alors, c'est encore une excellente question, et parce que ça permet de rendre les choses claires. La saisine par voie électronique s'applique à toutes les communes. Uniquement les communes de plus de 3500 habitants ont la nécessité d'avoir une procédure spécifique pour l'instruction. Et la saisine par voie électronique peut se faire très simplement. Alors, quand je dis très simplement, j'ai vu certains sites de communes où vous pouvez télécharger les formulaires, vous les saisissez, vous mettez votre dossier et vous renvoyez le tout à un mail, à une adresse qui a été stipulée. Donc, ça peut être simple. Vous ne bénéficierez pas du fait, si vous faites, de la dématérialisation par PDF et mail, vous ne bénéficierez pas du fait de récupérer les informations qui sont contenues dans le CERFA pour alimenter votre propre système de gestion et d'instruction. Ça, c'est la procédure complète, si vous voulez, très intégrée, qui permet d'évacuer. Mais au moins, vous avez respecté l'obligation de saisine par voie électronique. Donc, je ne vais pas citer les communes qui font ce genre de choses, mais elles le font déjà. Il y a beaucoup de communes qui ont mis en place des guichets ou des dispositifs extrêmement simples pour permettre d'être saisi par voie électronique. Cette obligation, elle est importante parce que si jamais on n'est pas conforme à cette obligation, après un simple courriel suffira pour faire office de saisine. Et ça peut être très ennuyeux puisque, comme les auditeurs le savent, vaut mieux contrôler quand est-ce qu'on reçoit la saisine, parce que cette date initiale fait courir des délais d'instruction. Et dans le droit de l'urbanisme, quand on ne répond pas dans les délais, saisine vaut accord. Donc là, ce n'est pas SVE, c'est SVA. Saisine vaut acceptation ou vaut accord. Et ça veut dire que vous avez un accord tacite, puisqu'il n'y a pas eu de décision explicite, vous avez un accord tacite de l'autorité compétente. Donc, faut mettre en place un dispositif. Faut en faire la publicité, par exemple sur le site de la commune, en disant « Vous voulez déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, c'est ici. » Alors, ça peut être plus ou moins compliqué, mais vous pouvez avoir des solutions relativement simples. Et à ce moment-là, vous répondez bien à l'obligation de la saisine par voie électronique.
Alors, c'est un chantier, on l'a dit, qui s'annonce titanesque, mais plus je vous écoute dans vos explications, plus j'écoute les questions de nos auditeurs, plus je me dis qu'une fois que ça va être mis en place, c'est pour simplifier la vie absolument de tout le monde.
Alors, on est d'accord ? Oui, je peux qu'abonder dans ce sujet-là. Sur votre opinion, évidemment, ça va simplifier la vie de tout le monde. Alors, ça nécessite un certain nombre de garanties, hein, parce que comme je l'ai dit, il faut que ces échanges, ils fassent l'objet d'un suivi. Ça peut pas, on peut pas, c'est pas juste un petit courriel comme ça. Il faut qu'on y réfléchisse. Il y a des problématiques qu'on pourra traiter dans d'autres émissions, de signatures, de recommandés avec accusé de réception. Comment on les remplace par des procédures électroniques, qu'est-ce qu'on met en œuvre, quelles sont les obligations de la part des collectivités quand elles reçoivent un dossier, comment elles doivent en accuser réception, etc. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'obligations, mais à terme ça devrait simplifier la vie de tout le monde. Ce que la crise a démontré, hein, c'est qu'il y avait une vraie appréhension de la part des services instructeurs de faire de l'instruction sur écran. Et on peut le comprendre. D'un côté, vous avez un dossier, vous ouvrez les plans, vous les tournez dans le sens que vous voulez, vous mesurez, vous regardez, vous avez les pièces, j'allais dire pas administratives, mais vous avez les pièces, les différents documents avec du texte, puis de l'autre côté, les plans. Vous pouvez mettre les plans les uns sur les autres et puis regarder... descendre ou monter la construction pour voir si tout est bien raccord. Donc, vous avez une capacité de traiter, d'instruire de manière tactile un dossier papier. Ce qu'on a vu, le commentaire, c'est que, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose quand on le fait sur un écran et que si on le fait depuis chez soi sur un petit écran d'un ordinateur portable, c'est peut-être difficile, surtout que si on regarde des plans qui sont très grands à zéro, là, on va avoir du mal. Après, en mettant un certain nombre de moyens, un certain nombre de dispositifs, et on pourra en discuter plus tard, on peut faciliter, et puis ça se fait. Il y a des fois des dossiers qui sont particulièrement compliqués, donc c'est là on peut peut-être matérialiser quelques pièces, mais il y a quand même des demandes préalables, des permis de construire qui sont plutôt simples, qui peuvent être instruits de manière sans difficulté. Et le retour des instructeurs qu'on a, que ce soit de collectivités territoriales ou de nos propres instructeurs au sein des directions départementales, c'est qu'on y arrive et que c'est une habitude à prendre et que c'est un changement qu'il faut plutôt anticiper que le subir comme on l'a subi dans les dernières semaines.
Alors, Maître Michel, est-ce que nous avons encore une question ? Parce que le temps passe à une vitesse phénoménale avec vous. Est-ce qu'on aurait une dernière question ?
Oui, nous avons une question d'un auditeur qui s'appelle Monsieur Moutel, qui demande si la fiscalité sera-t-elle également dématérialisée malgré son transfert aux finances publiques ?
Alors, on prévoit très clairement, alors merci de cette question, je vous assure, je n'ai pas payé les auditeurs pour qu'ils posent les questions. Merci de cette question. Oui, quand vous faites votre demande d'autorisation d'urbanisme, vous avez aussi une annexe qui s'appelle la DEMSI, qui doit être, je ne connais plus l'acronyme, je vous le trouverai plus tard. Donc, c'est les éléments nécessaires à la taxation. Et on a prévu de dématérialiser l'ensemble, à la fois le CERFA et aussi la DEMSI. Une fois que la décision est donnée par les communes, ce dossier, l'ensemble du dossier, donc il a été transmis à plateau, la DEMSI a été transmise à plateau, la décision a été transmise à plateau, et à ce moment-là, ça c'est répercuté et c'est renvoyé au sein des outils de la DGALN, donc un outil historique qui nous permet de faire la liquidation et après de l'envoyer pour recouvrement au service des finances publiques. Donc ça, on l'a prévu. Le chantier de transfert à la DGFiP qui a été décidé en juin dernier par le Premier ministre, il se fera, mais on s'est dit que ça serait quand même dommage de tout, alors qu'on est en train de tout dématérialiser, de pas faire ça et puis de lier les deux chantiers, de les surcontraindre. Donc, on a préféré se dire, on est autonome, on fait tout. Le chantier de transfert à la DGFiP, il aura son propre calendrier, ses propres contraintes et ses propres organisations. Mais nous, on se met en ordre de bataille de transmettre tout à nos outils pour que nos fiscalistes, les agents en charge de la fiscalité chez nous, puissent travailler de manière dématérialisée, au même titre que les instructeurs peuvent travailler de manière dématérialisée. Donc, on a bien pris en compte le volet fiscal qui est prévu dans l'application du droit des sols.
Alors, on arrive au terme de cette première émission. Il y a encore beaucoup de questions qui vous étaient proposées, mon cher Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Michel, de faire ce go-between, parce que les auditeurs, c'est à vous qu'ils s'adressent. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur cette dématérialisation. Le mois prochain, rendez-vous le 16 juillet, à la même heure, au même endroit, à Radio Territoria. Cette fois-ci, eh bien, nous pourrons évoquer le calendrier, par exemple, et la méthodologie du programme. Et puis, on dira un mot aussi sur l'étude d'impact et les changements qu'apporte et que permet cette fameuse dématérialisation. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci Jean-François, voyez, Jean-Baptiste, et merci beaucoup Michel. Et rendez-vous le mois prochain.
Merci Lily.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. À réécouter et télécharger sur radioterritoria.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts.